Bonjour à tous et bienvenue sur Estasia.fr pour notre troisième partie du podcast en direct du FICA de Vesoul. Ce soir, nous vous amenons en Thaïlande, au Japon, en Corée, au Kazakhstan, et peut-être pas en Corée d'ailleurs, mais en Turquie. Pour parler des films de ce soir, il y a donc Elias,
bonjour.
Elias, Jérémy, salut Jérémy.
Bonsoir.
Et Nicolas.
Salut.
Salut Nicolas. Donc trois films en compétition comme tous les samedis à Vesoul. On va commencer peut-être par le plus fort, celui qui nous a un peu mis une claque en sortant du film il y a quelques minutes. Et c'était en plus l'une de nos attentes cette année, c'est le Being Good de Mipopo. Nicolas, je vais te laisser la parole car je crois que tu as beaucoup aimé ce film.
Bah effectivement, je m'attendais quand j'y allais, vu le sujet du film qui parlait donc de plusieurs sujets lourds, notamment les enfants maltraités par leurs parents et les enfants, la difficulté des enfants dans le milieu scolaire. Je m'attendais à un gros film un peu casse-gueule, un peu lourd, qui aurait un peu plombé son sujet, et au final c'est tout le contraire. C'est un film d'une incroyable pertinence. C'est la vision, le regard de la réalisatrice est vraiment sublime. Elle évite quasiment tous les pièges dans lesquels elle aurait pu tomber. Et au final, on sort de la salle avec la petite larmichette parce que, putain, on a envie de faire des câlins à tout le monde, quoi. Et ça, c'est beau.
Jérémy, t'as envie de faire un hug au film aussi ?
Au film, oui, à Nicolas, peut-être pas, mais.
Dis au film.
Non, c'est un très beau film qui, on y a pensé tous en sortant, qu'il aurait pu être signé Koreeda, que ça nous aurait pas choqué. Il y a une vision de, il y a un discours sur l'éducation et sur la transmission tout simplement, qui est assez magnifique, avec des persos qui se croisent dans un petit district où qui se croisent et des destins qui s'entrelacent, et comme chez Koreeda d'ailleurs il y a des sentiments qui sont enfouis et qui demandent qu'à être exprimés, et c'est au contact des autres justement que les personnages arrivent à enfin pouvoir aller au bout des choses et pouvoir exprimer leurs sentiments. Et c'est très touchant, c'est très beau, et en même temps ça en dit beaucoup aussi ça dit beaucoup de choses avec très peu d'éléments. Ça dit vraiment beaucoup beaucoup, et ça nous serre le cœur, c'est très beau.
C'est vrai que le film en même temps a été présenté par Koreeda, mais c'est aussi ce qui est mis en avant dans la bande-annonce comme un film sur la maltraitance d'une femme par rapport à sa fille. C'est une partie du film, c'est vraiment une des deux histoires centrales.
C'est ça.
Qui est mise en parallèle avec l'histoire d'un jeune professeur qui arrive avec une classe de CM1, alors comme c'était pas traduit au niveau des sections,
c'est l'école primaire,
et qui doit faire face à plusieurs problèmes, certains assez pas importants, d'autres qui sont vraiment importants pour la suite des personnages.
Et c'est là justement qu'elle a réussi quelque chose d'assez fantastique, c'est que elle arrive à nous faire comprendre et nous faire ressentir à quel point chaque enfant en fait a quelque chose de a des problèmes un peu individuels, et que en fait le rôle éducatif est de pouvoir s'adapter à chaque problème de chaque enfant, et ça c'est beau comme ce qu'elle arrive à faire ressortir par rapport à ça et par rapport au rôle de l'instituteur justement, et son évolution tout au long du film.
Oui, une prise de conscience de son, c'est une prise de conscience de sa part. Où il est tout jeune, on sent qu'il est né dans un foyer plein d'amour. Ce qu'on voit, il y a les scènes avec sa sœur notamment, on sent qu'il a été, qu'il a baigné là-dedans, et que lui, c'est des questions qu'il se pose pas vraiment, parce que pour lui c'est une évidence, quoi, ça paraît évident. Et ce contact de ses enfants qui sont tous assez incroyables d'ailleurs. C'est au contact de ses enfants qui comprend que finalement il y a quelque chose qui cloche, et petit à petit il va se remettre en question lui, son métier d'enseignant, et il va comprendre à la fin ce que c'est la transmission et ce que c'est l'éducation, et finalement il va il faisait pas, on sentait qu'il faisait pas vraiment ce métier-là par vocation. On avait l'impression plutôt que c'était là, il était là quoi, en dilettante un peu, il était là, il rentrait chez lui, bon voilà. Et on sent que on le sent de plus en plus investi au contact de ses enfants. Tu me dis ouais,
alors, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on le voit quand même très investi dès le départ. La première scène où on le voit, il a frappé à chaque maison parce que des enfants de sa classe ont sonné chez des gens. Et je pense qu'il a plus un idéalisme total.
Oui, c'est ça.
Mais un peu.
C'est naïf quoi.
Enfin voilà, un peu.
Désordonné. Ouais, c'est ça.
Et il sait pas comment l'appliquer.
Ouais, c'est
en
plutôt
fait,
ça.
Dans le film, il va apprendre à garder cet idéalisme, mais à l'appliquer à des situations concrètes de la vie des enfants.
T'as raison. Puis un message de voilà, il y a un message de un message d'amour et c'est peut-être très premier degré, très naïf, mais en même temps c'est salutaire quoi, je trouve.
C'est aussi extrêmement beau, c'est le côté naïf premier degré, parce que c'est vrai quand on voit le thème du film, on peut penser à un côté un peu donneur de leçons, comme quoi ne battez pas vos enfants, c'est mal, il faut être gentil avec les enfants, etc. Il faut s'aimer les uns les autres. Ce qu'elle dit, mais c'est jamais cynique, c'est jamais négatif, et à part une seule scène de critique du système d'éducation, qui encore peut se justifier avec des moyens, plutôt simplement faire attention aux gens, etc., ou qui n'est pas non plus totalement négative, j'ai trouvé. Elle est négative, mais pas non plus. Ça pourrait être bien pire et fait de manière bien plus critique.
Oui, ça montre juste que parfois le système n'est pas adapté à certaines situations,
oui, voilà.
Et que les instituteurs, en fait, peuvent pas vraiment aller plus loin et sauver certains enfants qu'ils pourraient sauver. Parce que le système est trop global.
Je pense pas à cette scène, je pensais à la scène du début avec la mère qui appelle pour dire oui aux
enfants, etc. Non, ça c'est.
Je pensais pas à celle-là. Effectivement, c'est là le plus dur.
Elle va emmener un enfant qui est maltraité.
Il peut pas aller plus loin.
Et en fait, on lui dit bah non, il est pas battu, on fait rien.
Voilà, c'est trop pas. Ce qui est bien, c'est que on sent qu'elle a pas les réponses à ça, parce que c'est quelque chose qui. Voilà, c'est un vrai nœud, ce truc-là. Et elle le met, elle place quand même ça là pour faire comprendre que c'est un métier difficile tous les jours et qu'il y a justement le système n'est pas.
En fait, elle va à la racine des problèmes.
Exactement.
Le problème, c'est les parents, c'est l'amour qu'ils donnent aux enfants, c'est les préceptes quoi, c'est les bases d'éducation, de l'éducation qu'ils leur donnent, qui façonnent après les jeunes. Comme cette dame qui tape sa fille parce que justement elle sait pas faire autrement quoi. Elle sait pas faire autrement, c'est comme ça qu'elle a été élevée et que forcément ça se répercute sur l'éducation de sa fille. Et c'est au contact de cette mère qui est assez incroyable parce que voilà.
Une voisine
qu'elle rencontre qui finalement devient une amie et qui. On la voit prendre conscience petit à petit que finalement il y a quelque chose qui cloche dans sa façon de faire et que.
Mais c'est très fort de montrer cette situation dans toute son horreur réaliste et en même temps d'arriver à ne pas nous faire juger le personnage, à ne pas nous dire cette mère qui bat son enfant est une femme monstrueuse. Voilà,
il la montre sous un jour très dur, mais au fur et à mesure, on comprend qu'il y a quelque chose d'autre et justement elle va aux racines du truc et on comprend que.
C'est aussi en fait, qui est magnifique dans ce film, c'est que chaque scène un peu dure est tout de suite contrebalancée dans la scène d'après ou un peu plus loin. Par des scènes avec les enfants ultra mignonnes, par exemple cette scène où il y a la voisine qui justement dit à la petite fille, viens vivre chez nous, etc., en rigolant. Genre, viens chez nous, on a un trampoline, etc., viens vivre chez nous, enfin, c'est une blague. Et la petite fille part sur sa mère directement, qui pourtant là-bas lui fait un câlin, lui dit non, je veux rester là, et c'est juste super beau.
En fait, justement, ce que je veux dire, c'est qu'on comprend pourquoi. Cette scène-là, à mon avis, elle, parce que en fait, l'autre mère qui elle, on paraît être la mère qui, sans trop dire trop, qui paraît super cool, on comprend pourquoi en fait elle continue avec cette scène-là, elle continue à faire ce qu'elle fait ensuite, sans vouloir spoiler.
Mais je trouve que voilà, cette mère de famille là, je trouve que c'est un beau symbole de tout le film en fait, parce que c'est vraiment un film bienveillant, c'est un film chaleureux, bienveillant et. Et en fait, on s'y sent bien dans ce film. On n'a pas forcément envie de partir, alors que
ça dure 2 heures.
Ouais. Et ça dure 2 heures.
Comme chez Coréda.
C'est un univers qu'on n'a pas envie de quitter. Et pourtant, c'est un sujet très dur. C'est souvent assez dur par moment, mais c'est un univers qu'on n'a pas envie de quitter. C'est ça qui est c'est assez frappant.
Il faut dire 2 choses quand même. La première, c'est que la musique est Beethoven, spécial casse dédié à la musique qui passe derrière. Et enfin, on entend la 9e de Beethoven. Et deuxième chose, il y a quand même un travail sur la direction des enfants.
C'est
incroyable. Et notamment, on en parlait justement d'une scène où le professeur demande enfants comme devoir de faire un câlin à un membre de leur famille. Et Mipo va ensuite, dans un cadre presque documentaire, interroger chacun des enfants de la classe en les individualisant, en leur demandant ce qu'ils ont ressenti.
C'est très fort.
Les réponses sont très variées, mais on sent qu'il y a cette approche très
individuelle
et qui rajoute justement.
Et puis les réponses sont, il y a certaines réponses qui sont assez assez émouvantes quand parce que cette scène arrive dans le troisième acte et on tout ce qu'on a vu avant. Et quand il y a des enfants qui te disent, par exemple, il y a le gamin, moi ça m'a marqué, où il dit, quand le père lui a dit, bon bah si c'est un devoir, je vais le faire quoi, mais on sent que le père n'avait pas envie de le faire, et on sent, il y a plusieurs réponses comme ça où on sent que les parents, c'est pas dans leur habitude, c'est pas dans les racines de l'éducation, de donner, de montrer de l'affection ou de. Et c'est assez fort parce qu'on sent que ces enfants-là, ils en ont besoin et ils crient pour ça, quoi. Ils ne réclament qu'absolument que ça. Tous ces enfants, on le voit dans leur regard. Même le petit thug là qui.
Est-ce que ça commence à être des rebelles à cet âge-là?
Voilà, le petit qui dit non, je veux pas faire mes devoirs, qui fout le bordel, qui emmerde tout le monde. Mais même ce mec-là, on sent qu'il cherche l'attention, quoi. Il cherche l'attention du prof, il cherche l'attention de ses camarades. Et tous ces élèves sont, à leur manière, essayent de trouver de l'affection partout.
Oui, c'est quand même génial de voir des vrais enfants vivants comme ça dans une classe, qui foutent le bordel de temps en temps, qui peuvent être attachants, mais des fois énervants comme ça. Et on a vraiment l'impression qu'ils vivent et que sont. C'est pas des enfants de cinéma, quoi.
C'est ça.
Des vrais enfants.
Ça donne une vie. Il y a une vraie vie dans ce film.
Ce cinéma sont exceptionnels. Enfin, l'enfant qui joue l'enfant autiste, on n'a pas parlé que dans la troisième histoire, qui en même temps, qui est celui d'une grand-mère qui, je pense, on dira Alzheimer.
Donc, voilà. Commence à, ouais.
Qui commence à un début d'Alzheimer.
Et qui se lie d'affection avec un enfant autiste qui passe tous les jours dans chez elle, lui dit bonjour, au revoir. Donc une relation d'affection qui va se nouer entre les deux. Et l'enfant qui joue un enfant autiste, qui est pourtant un rôle qui est plutôt physique, qui est très codifié quand même, et qui est vraiment des demandes de réalisateurs de jouer d'une façon spécifique. Et même lui joue très bien, donc c'est pas que des bons enfants, c'est des enfants, enfin que des vrais enfants. Les enfants sont bons en général.
Et on n'en parle pas assez de cette vieille dame, mais elle a un rôle assez central. Elle a un rôle assez central dans le film parce que.
Donc c'est la troisième histoire.
Et il y a le sujet de la guerre qui est un petit peu effleuré comme ça, sans l'air de toucher. C'est une femme qui a perdu sa famille, qui a perdu son frère et son père, je crois, à la guerre.
Son frère, lui, c'est sûr.
Ouais. Et qui vit avec ce manque, justement,
d'affection, avec ce manque de proximité,
d'affection, voilà. Mais aussi de repères, en fait.
De repères.
Et on sent que c'est une femme qui a pas eu vraiment de repères, qui est assez inadaptée aussi, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle se lie d'amitié avec cet autiste qui quelque part lui ressemble un peu. Quand il y a le troisième personnage de la femme bienveillante. Qui aide la fille qui tape sa fille. Elle parle d'une vieille dame qui l'a aidée aussi, etc. On se demande même si c'est pas la même dame.
C'est vrai qu'il y a implicitement il y a des personnages, il y a des liens qui sont sous-entendus comme ça.
Bah d'ailleurs le mari de cette dame, c'est le mec qui travaille avec les handicapés par exemple.
Oui, c'est vrai.
Elle nous le dit un peu, on comprend.
Qui est bizarrement le personnage qui m'a le plus touché du film. Pour une raison, je ne sais pas laquelle, lorsqu'elle dit à la fin « Waouh, mon fils m'a fait... » La première fois qu'on dit que mon fils est quelqu'un de bien et tout, j'ai...
Ah, cette scène, elle est aussi marquante aussi.
Ouais.
Oui, j'ai moi aussi, on m'a beaucoup ému.
Et c'est en ça que le film est très subtil, parce qu'on a l'impression d'avoir plusieurs histoires qui sont séparées, mais en fait, c'est une vraie... c'est relié par la thématique, et en plus, les personnages sont reliés entre eux, sans qu'on insiste trop dessus.
Non, c'est par petites touches, comme ça, c'est...
Voilà.
Donc on va reparler d'un autre film qui est... en tout cas, oui, allez voir. Essayez de découvrir...
Puis on l'a pas dit, mais c'est le film préféré de Koreeda en 2015. Donc c'est un bon argument, quoi.
C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Koreeda. Et dernière chose, on retrouve Kora Kengo, qui était l'acteur de Story of Yonosuke.
Autre magnifique film, d'ailleurs.
Autre excellent film, qu'on avait découvert à Kinotayu il y a 2 ans. et qui là joue le professeur justement avec un peu plus de maturité que dans le précédent film. Mais en tout cas, ouais, c'est un acteur à suivre, et surtout Nipo est vraiment une réalisatrice à suivre, en espérant que le film soit, soit un peu voilà, visible en France dans les prochains mois. Ça reste, je pense, le coup de cœur avec Tarlo du FICA de Vesoul. Donc, vous comprenez qu'on a un peu moins aimé les deux films découverts aujourd'hui. on va être sympa, on va au Kazakhstan pour commencer.
J'ai pas grand chose à dire.
Avec Walnut Tree. Un film de Yaran Nurmagomedov, donc un cinéaste kazakh qui a fait quelques moyens métrages, courts métrages, et c'est son deuxième film. Apparemment, c'est une description de la vie d'un petit village du Kazakhstan, ses coutumes, de la circoncision au mariage. Et on voit les différents stades de la vie autour de personnages attachants ou pas,
ouais, j'allais dire.
Qui ne les a pas trouvés attachants, donc où est-ce que vous les avez?
Non, c'est des personnages qui sont pas vraiment pas attachants, mais c'est un univers un peu drôlatique, quoi. C'est des persos assez absurdes qui voilà, ça commençait très bien le film avec une scène de rêve dans le rêve, etc., où c'est déjà, on rit de bon cœur dès le début.
C'est la meilleure scène du film, largement. Ouais.
On rit de bon cœur dès le début et on se dit, oh putain, ça commence bien.
Ça commence par du Buñuel, quoi.
Oui.
Humour absurde.
Quelque chose d'un peu surréaliste.
Et puis sa femme.
Et puis après ça part dans le film de festival habituel avec les us et coutumes de nos amis kazakhs qui cassent des noix. Voilà, se marie, circoncis,
brûle des maisons,
les enfants,
brûle
les maisons. Après, il s'en dégage une certaine. Voilà, j'ai pensé à Kusturica pour le côté un peu pittoresque, le côté un peu.
Parce que, moi, ce que je disais, c'était qu'on était très proche du cinéma d'Otario Celi, par exemple, voilà, ouais. Avec justement un exotisme peut-être un peu plus exacerbé. Il a besoin de montrer les coutumes et d'avoir cet aspect un peu démonstratif, exotique.
Mais on se dit que sans le côté exotique, le film aurait encore moins d'intérêt qu'il n'a déjà.
Bah, après, ce qui sauve un peu le film, c'est ce côté absurde, justement, oui, voilà. Ce sens du gag, du timing, de la répétition. Il y a beaucoup de situations qui se répètent. Le reste manque un peu d'ampleur, d'intérêt, de liant aussi.
De génie aussi, un peu de d'originalité dans le gag, quoi. On a déjà eu
simplement de penser à autre chose que lorsqu'on sort, se dire et alors. Je pense que c'est ce que j'ai ressenti à la fin du film, mais je pense que c'était pas quelque chose de très bien.
C'est un drôle de film, en fait. C'est vraiment drôle le film parce que on sent qu'il y a quelque chose, mais
ok. Bon, on va passer au troisième film de la compétition officielle,
mon film préféré,
Doner Kebab,
La Notée. Ou en grec, en français, la nuit, ou en grec.
Non, en turc. Attention, tu vas fâcher des gens là. Déconne pas.
J'allais dire en grec avant de dire. Je fais la version internationale.
En espagnol, la moche.
Donc, La Nuit, d'Erdem Kiral, film turc, comme vous l'avez compris, qui raconte l'histoire de trois personnages d'une famille centrée sur la fille. Qui travaille dans une boîte de nuit, mariée à un mauvais gars, on va dire.
Un Mundir.
À Youssouf.
Un bad boy.
Le chia, le bœuf turc. Ah non, c'est Mundir, carrément.
C'est Mundir.
Alors que son jeune frère est emprisonné.
Pour une raison X.
Pour certainement traiter une suspicion de terrorisme. En tout cas, il fait partie de certains groupes kurdes. Et il décide de faire une grève de la faim, cela sous les yeux de leur plus jeune sœur. Qui voit leur frère aîné
qui est très joli.
Rentrer d'un exil. Donc voilà, résumé, gros trait, ce film, donc, qui n'est finalement pas un film de genre tel qu'on l'attendait.
Avec le trailer, on s'attendait à un bon polar à la Anurag Kashyap, avec des néons,
Il y a un peu d'électro quand même, mais...
Il y a un peu d'électro, mais c'est les meilleures scènes du film d'ailleurs. Mais on se retrouve avec un film, encore une fois, avec un film de festival assez habituel, avec un fond super politique dont on ne comprend pas grand-chose finalement. C'est assez opaque et c'est assez austère pour nous déjà. On ne comprend pas grand-chose pour nous occidentaux. Et si on ne connaît pas un peu la situation turque, la situation kurde, Voilà, on comprend pas ce que font vraiment certains personnages, pourquoi ils sont là.
Ah, c'est pas expliqué en fait.
C'est pas expliqué, donc c'est vraiment pour le marché. C'est un marché national quoi.
Mais moi je trouve que ça, c'est pas forcément un défaut.
Non,
que,
je suis d'accord.
Voilà, qu'on ait pas un carton explicatif sur la
situation. Non.
Après, on a eu le temps de faire les recherches honnêtement, mais
enfin,
si on veut faire une critique, on le ferait. Mais,
je trouve qu'il y a une limite entre ne pas expliquer tout le film et simplement ne pas comprendre ces éléments que je trouve plutôt clés du film. Quand t'as quelqu'un qui est en prison pendant tout un film et que tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y est, ou que à la fin t'as quelqu'un qui se fait tirer dessus, tu sais pas pourquoi, je trouve ça assez gênant quand même, même si c'est pas, ça empêche pas le film de se dérouler et on peut quand même se raccrocher à des choses. Il y a quand même des points qui ont l'air assez importants dans l'histoire et notamment un point pivot à la fin qui fait passer le film dans une nouvelle nouvel acte d'ailleurs totalement en roue libre, mais c'est pas, on en parlera plus tard. Je trouve ça assez dommage de ne pas savoir pourquoi, et je trouve que ça sort vachement du film.
Mais après, au fond, ça reste un drame.
Ça reste un drame archi
classique, quoi. C'est une femme qui est bloquée dans un peu au milieu de, voilà, elle a fait les mauvais choix, elle est coincée.
Angel of Barton T1,
c'est ça. c'est une fille un peu naïve qui a fait les mauvais choix et qui devient un peu l'esclave de son mari et du pimp qui l'emploie là, le vieux macro là.
Même de son grand frère.
Avec son nez,
qui voilà, son absence finalement, et elle est esclave de ça aussi quoi. C'est encore une fois, c'est les hommes qui est piégé par les actions des hommes qui l'entourent. Quoi. Donc c'est,
le gros défaut du film aussi, c'est que le film est vraiment scindé en deux et qu'on a cet aspect politique, alors qui effectivement est assez lié à la géopolitique locale, hein, que je connais pas plus que toi, Elias, mais moi ça m'a pas trop dérangé justement de qu'on m'explique pas trop. Oui. Et finalement, je regarderai ce qui s'y passe de manière plus attentive après, entre deux verres de raki qu'on voit beaucoup dans mais et de l'autre côté, on a cette histoire effectivement de jeune femme perdue dans une qui va dans une décadence par rapport à ses mauvais choix de vie, on va dire. Et en fait, je vois pas, j'ai l'impression d'avoir vu deux films en montage parallèle tout le temps, contrairement au Mipo O, donc on évoquait tout à l'heure.
Il y a plusieurs histoires.
Il y a plusieurs histoires et où finalement le lien thématique est extrêmement présent. Là, il y a deux films un peu superposés très maladroitement. À la Inaritu, on va dire, pour ceux qui ont vu Babel, et qui semble un peu très schématiquement, artificiellement, mélangé.
Et surtout qu'il y a un peu de film qui est beaucoup plus simple que l'autre, je trouve. Autant le film a justement ce côté décadence, il y a des scènes
sur la boîte de nuit, donc.
Boîte de nuit, il y a des scènes qui sont plutôt sympas à regarder. T'as des jolies lumières dans la boîte de nuit. Moi j'aime beaucoup les scènes des boîtes de nuit, quoi qui se passe. Je trouve toujours très sympa à regarder. Celles-là sont plutôt bien réussies. De l'autre côté, il y a concrètement l'autre film, entre guillemets, il y a une seule scène en boucle.
Il y a une scène
de nuit
qui est répétée.
Je pleure. Et ah oui, mais en fait, voilà. En fait, ce film, c'est deux scènes qui se répètent en boucle.
Voilà,
et à la fin, ça part en live.
Voilà, exactement. Et moi, en fait, j'aurais préféré que ça parte en live. Quitte à pas comprendre.
Après, est-ce que c'est pas voulu
que ça parte en live?
Est-ce que c'est pas voulu justement?
Après, quand ça parle, fait que pas très bien.
Non, mais le fait que ce soit la même chose du côté de la boîte de nuit, c'est un peu voulu parce que c'est.
Non, des deux côtés, c'est très addictif en fait.
Oui. C'est un cycle qui se répète et puis au bout d'un moment, ça pète quoi.
Ouais, mais ça pète pas assez tôt du coup.
Oui, ça pète pas assez tôt.
Ça pète pas assez tôt et quand ça pète, c'est quand même très très maladroit.
C'est maladroit.
Très drôle. Ça s'enchaîne très très vite et c'est très maladroit.
Le climax final. Bon, finalement, moi j'ai pas du tout cru à la conclusion,
non.
Par exemple,
non.
Au niveau de la manière dont sont présentés les personnages, ça arrive d'une manière
des
extrêmement
brutale.
Brutal, des ellipses, effectivement, donc voilà, c'était pas non plus un très bon film de cette année.
La fin était drôle.
Moi j'ai cru un moment qu'ils allaient se jeter du pont, mais
c'était bien,
faut pas que je spoil.
mais quand même, globalement, malgré ce qu'on peut dire du film Kadak et du film turc. C'était plutôt des films intéressants de festival, en tout cas c'est pas complètement honteux ou des films à rejeter complètement, donc dans l'ensemble, sur les 5 films qu'on a vus, moi j'étais plutôt content de la compétition officielle. Oui, non,
oui,
non,
oui, bon, on est d'accord.
Oui, non, totalement.
De toute façon, déjà quand t'as un film, pour moi, quand t'as un film qui est proche de la claque comme a pu l'être Being Good, pour moi, c'est déjà réussi.
Ouais, c'est vrai qu'on peut revenir sur Being Good. On fait un mini bilan parce qu'on arrive, en fait, c'est notre dernier jour, on repart demain. Donc, on parlera finalement des films qu'on n'a pas vu au prochain podcast, si jamais ils l'ont appris. Voilà, c'est vrai que Being Good, on attend quand même très fortement qu'il ait pris du public, et quand même un gros coup de cœur pour Tarlo.
Ouais, Tarlo, qui était vachement bien aussi. Qui était vachement bien.
Si. Et pour
je devais le faire, je t'ai
Et pour conclure, on n'a pas oublié les maîtres oubliés du cinéma thaïlandais.
Il y a un film important qu'on a vu.
Citizen One, parce qu'il y a une suite.
Aujourd'hui.
Alias Taxi Driver.
Est-ce que c'est le Citizen Kane thaïlandais?
Le Taxi Driver. Taxi Driver.
Oui, non, mais.
Oui, j'ai compris.
C'est un film super intéressant parce que il creuse les thématiques qu'on a déjà vues dans les autres films, à savoir le.
C'est 1977,
un an après.
Chatrisha,
oui, parce que Bastien nous a expliqué que c'était le 16e descendant. C'est-à-dire que si 16 personnes crèvent avant lui, il pourrait devenir roi de Thaïlande. Mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui pouvait filmer justement. Il pouvait filmer les bidonvilles, il pouvait filmer sans être inquiété par la. Sans risquer quoi que ce soit. Donc voilà. Et donc pour revenir au film, ça creuse les thématiques à explorer dans les autres films, à savoir les luttes de classe, la politique du pays,
la lutte des pauvres contre l'adversité. Après, on est loin quand même de la, on est loin de du côté très très,
on est loin du côté très très brut et très maîtrisé et voilà quasi voilà et génial.
C'est un peu kitschou ça, c'est vrai.
Et de du Scorsese, mais c'est pas comparable, mais mais en tout cas c'est bien adapté parce que c'est très bien adapté à la situation du pays.
Non, puis c'est bien écrit. Enfin, je veux dire, le traitement narratif,
la trame est très bien menée. Ouais, très bien c'est bien quoi, mené.
Tu t'ennuies pas
Non.
Je lis que ça se situe entre le classique, le voleur de bicyclette, et le culte.
Et un peu
de
ça.
C'est très ça. C'est carrément ça. Parce que voilà, c'est un mec qui se fait voler son taxi, qui est son gagne-pain. Bah, c'est le voleur de bicyclette, quoi. Et il veut le récupérer à tout prix.
À tout prix.
Et il veut son taxi parce qu'il n'en veut pas un autre.
Il y en a plein d'autres.
Hein, monsieur. Il y a sa copine qui dit je te repaye un taxi. Lui, il dit non, j'en veux pas. Je veux mon taxi. Parce que bon, je veux pas me laisser.
Il a vendu cette terre. Il s'est sacrifié pour avoir son taxi.
Je vais pas me laisser entretenir par une femme, faut pas déconner. Donc, voilà. Je fais cette honnête et chevaux en bonne santé. Voilà. Et. Et voilà, mais en tout cas c'est très maîtrisé, ça tient bien sur la longueur, c'est un peu longuet par moment, il y a un petit ventre mou quand même, mais
pas spécialement, ça m'a pas choqué moi.
Mais ça tient aussi à un moment quand on explore un peu le côté avec le Mac, tout ça, la baston avec le Mac.
Bah, les bastons, c'est un peu les scènes les sont drôles,
mais mais c'est, ça fonctionne sur la longueur et c'est un vrai bon film. C'est un vrai bon film. Le personnage principal
très attachant,
Très attachant, très cinégénique d'ailleurs. Mmh. Et il maîtrise assez bien. C'est un des meilleurs acteurs qu'on ait vu dans la intro.
Il y a aussi un petit côté buddy movie avec le
oui, Jack, là, oui, exactement, aussi, exactement.
Il y a plein de, puis là, les références sur le film, il y a même un poster de
d'Al Pacino.
D'ailleurs, c'est même pas un poster de Taxi Driver, c'est ça qui est drôle.
C'est pas De Niro, c'est pas Taxi Driver, c'est un gros poster de Pacino en mode Jésus, quand il était en mode Serpico, quoi.
Voilà, exactement.
Et c'est assez marrant. Ouais. Il y a une vraie influence américaine en tout cas, et puis néo-réaliste parce que. Bon.
Voilà, donc bah demain, là c'est notre dernier jour, donc samedi 6 février 2016. Demain, on va quand même voir A Tongue in Fog, Comme vous l'oubliez, et Les Bambous Rouges, les deux derniers films thaïlandais. S'il y a un des deux qui est un chef-d'œuvre, on en parlera lors du prochain podcast que vous pourrez écouter à la fin du mois de février.
On va revenir sur Being Good.
Et on pourra revenir sur Being Good, bah, j'espère, à plusieurs occasions.
Oui,
d'ailleurs, on verra
si
on revoit. Ça, on verra.
Achetez le film.
Et par ailleurs, on reviendra aussi sur le palmarès, donc que vous pourrez trouver sur le site dès mardi soir ou mercredi.
Mercredi.
C'est mercredi soir.
Mercredi soir.
Ok. Enfin, c'est mercredi soir. Mercredi soir ou jeudi matin sur sdia.fr. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur le festival, Elias.
C'est mon premier Vesoul.
Je suis assez content. J'ai vu deux bons films et après des films sympas. Trois bons films, parce que même si je suis seul qui ai vu une Chin Wall, je trouve ça vachement bien. Donc j'ai vu trois bons films et j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'était rigolo à faire et à voir.
Jérémy.
Pareil, je suis assez content de la sélection. C'est une des premières années où j'ai l'impression que toutes les sélections se tiennent à peu près. Bon, je suis assez cool.
Parce que les autres années.
Non, c'était assez inégal, faut le reconnaître. Et là, je trouve que.
Au niveau de la sélection officielle, ouais.
Je trouve que ça se tient bien.
Les films qu'on a vus, même si on n'en a pas aimé certains, mais en tout cas, se tiennent.
Ils n'étaient pas inintéressants et ils n'étaient pas. Ouais, c'était exactement. Pas le calvaire, quoi. Donc, voilà.
Le seul film que j'ai vraiment détesté, c'est Le Rêve.
Oui, Le Rêve,
c'était une autre purge, mais c'était pas dans la compète.
Une affreuse purge.
Une vraie purge, mais.
Et moi, je pense que le meilleur nous attend, puisqu'on va se diriger. À la Bombouzerie, où il y a la soirée thaïlandaise. Donc rendez-vous à la fin du mois prochain à Space Colors.
Au revoir, camarade Bisou.